VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 4 octobre 2017. John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, Togo, de nombreux manifestants sont descendus dans les rues pour exiger des réformes constitutionnelles. En Guinée, l'opposition a également marché à Conakry contre l'impunité. Ici aux États-Unis, le secrétaire d'État américain dément avoir voulu démissionner. Donald Trump est arrivé à Las Vegas pour consoler les familles des victimes après le massacre de 59 personnes par un tireur embusqué. Et puis, nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Des milliers de Togolais ont manifesté à Lomé en province pour exiger des réformes constitutionnelles après des semaines de mobilisation contre le régime de Faure Gnassingbé. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kayla Hassan.
Le leader de l'opposition togolaise le plus adulé en ce moment, j'ai nommé le président du PNP, Tipi Achadam, était dans les rues de Lomé ce 4 octobre. De quoi galvaniser les foules. C'est notre sauveur à l'ancien manifestant lorsque Tipi Achadam est monté sur l'escalade pour livrer son message. Sans détour, il a indiqué que les Togolais sont proches de ce qu'ils réclament, c'est-à-dire la constitution originelle de 1992. Ainsi, il a invité les manifestants à répondre massivement à la marche de demain, 5 octobre. 5 octobre qui est une référence en matière de marche démocratique au Togo. Rappelons que c'est le 5 octobre 1990 que les Togolais se sont soulevés pour la première fois contre le pouvoir de Gnassingbé. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
En Guinée, marche de l'opposition contre l'impunité, selon elle. Des dizaines de personnes ont été tuées par balles sans qu'il y ait eu enquête pour situer les responsabilités. La marche a démarré en banlieue de Conakry jusqu'à Amdalaï. Notre correspondant Zakaria Camara était sur place.
L'opposition guinéenne veut exiger du gouvernement des poursuites contre des auteurs des tueries lors des manifestations qu'elle organise.
Il y a trop de victimes, ils s'envolent comme ça, à chaque fois ils s'envolent, il y a trop de victimes.
Plusieurs milliers d'opposants Alpha Condé sont sortis pour réclamer justice, mais pas seulement. Certains exigent la tenue des élections locales.
Pour dénoncer les malgouvernances, en plus généralement, c'est pour qu'ils puissent faire les élections dans le bref délai.
Selon l'opposition guinéenne, plus de 80 personnes ont été tuées par balle lors des manifestations. Une situation que le chef de file de l'opposition juge inacceptable. La marche avait été interdite par le gouverneur de la ville de Conakry. Hier soir, le gouvernement l'a autorisée par la voix d'un des conseillers du président Condé. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Au Cameroun, une bombe artisanale a explosé dans la nuit de lundi à mardi sans faire des victimes à proximité des locaux de la police à Bamenda, chef-lieu du nord-ouest du pays, après la proclamation symbolique dimanche de l'indépendance des régions anglophones. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé à Niamey que la force anti-djihadiste des pays du G5 Sahel sera une bonne réponse aux questions sécuritaires et aura le soutien de la France. Les dirigeants des pays du G5 Sahel ont décidé le 2 juillet à Bamako la mise en place de cette force conjointe et débloqué des fonds pour commencer son déploiement ce mois-ci. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a annoncé la création de couloirs humanitaires dans le pool et proposé de racheter les armes des jeunes égarés dans cette région du sud de Brazzaville qui a replongé dans la violence en avril 2016. En Afrique du Sud, 8 personnes d'une même famille, toutes de sexe féminin, ont été tuées par balles chez elles et leur domicile incendié, a indiqué la police mercredi. 6 des victimes étaient âgées de 3 à 18 ans. Le bilan de l'épidémie de peste qui affecte depuis plus d'un mois l'île de Madagascar, dont la capitale Antananarivo, continue de s'aggraver et s'élevait mercredi à 30 morts sur les 194 cas de peste enregistrés, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé. Le gouvernement malgache a interdit jusqu'à nouvel ordre les rassemblements publics dans les rues d'Antananarivo et mis en place des couloirs à l'aéroport de la capitale. 13 des suspects interpellés lundi au Maroc lors d'une saisie record de cocaïne sont des Espagnols d'origine marocaine. Les deux cerveaux présumés des Néerlandais ont été incarcérés, a précisé Abdelhak Kiam, directeur du bureau central d'investigation judiciaire. Au moins 4 personnes ont été tuées mercredi et 15 blessées dans un attentat suicide dans la ville libyenne de Misrata. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique s'est produit dans le complexe des tribunaux au centre de Misrata sous contrôle des puissantes milices qui avaient aidé à chasser en 2016 le groupe djihadiste de Syrie. En Tunisie, les proches d'Ahmed Anachi, le Tunisien désigné comme le meurtrier de 2 jeunes cousines dimanche à la gare de Marseille, peinent à comprendre ce qui a pu le pousser à l'acte. Cet homme, selon eux, n'était pas radicalisé. Toujours en Tunisie, l'Organisation mondiale contre la torture a souligné que la lutte contre le terrorisme à travers le monde n'était pas une excuse pour recourir à la torture. L'OMCT, qui se réunissait pour la première fois en Tunisie, où la torture a longtemps été une réalité taboue, a salué les progrès de ce pays moteur dans la région pour la lutte contre la torture, tout en soulignant le travail encore nécessaire pour arriver à la fin de l'impunité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump est arrivé à Las Vegas 3 jours après la fusillade qui a fait 59 morts et plus de 500 blessés, soit la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. L'avion présidentiel Air Force One s'est posé peu après-midi sur l'aéroport McCarran, accompagné de son épouse Melania. M. Trump doit rencontrer des proches des victimes ainsi que les enquêteurs qui tentent toujours de déterminer les motivations du tueur, un retraité de 64 ans, inconnu des services de police. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a affirmé qu'il n'a jamais envisagé de démissionner lors d'une rare conférence de presse. Des journaux américains ont fait état de graves dissensions avec le président Donald Trump. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Il ne m'est jamais venu à l'idée de partir. J'ai été nommé par le président et je suis là aussi longtemps que le président a le sentiment que je peux être utile pour atteindre ses objectifs, a déclaré Rex Tillerson au département d'État. La chaîne NBC News a rapporté que le chef de la diplomatie américaine avait traité Donald Trump de débile à la fin d'une réunion au Pentagone cet été et menacé de démissionner en raison des divergences avec le président. Interrogé sur le qualificatif de débile, Rex Tillerson a balayé d'un revers de main, disant que cela n'a pas d'autre objectif que de diviser. Dimanche, Donald Trump a écrit que négocier avec Pyongyang est une perte de temps. Rex Tillerson avait pourtant évoqué l'existence de canaux de communication pour sonder les intentions du régime nord-coréen quant à l'avenir de son programme nucléaire.
La situation des réfugiés en Birmanie inquiète, c'est le constat qui se dégage aujourd'hui, ainsi que le souligne Eric Manirakiza dans cet élément.
4000 à 5000 Rohingyas franchissent quotidiennement la frontière pour trouver refuge au Bangladesh, dans l'un des pays les plus pauvres de la Terre. De nouvelles manœuvres militaires ont lieu dans l'état du Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie. Le flux de réfugiés a donc repris de plus belle, au profit de quelques passeurs sans scrupules. D'ailleurs, 39 personnes ont été arrêtées au Bangladesh. Ils faisaient payer 250 $ par tête le trajet en bateau, qui coûte environ 10 $ en temps normal. Selon des chiffres de l'ONU, 509 000 Rohingyas sont arrivés au Bangladesh depuis la fin août. Ils sont venus s'ajouter aux 300 000 réfugiés qui se trouvaient déjà dans des camps miséreux. Les Rohingyas, plus grande population apatride au monde, sont traités comme des étrangers en Birmanie, un pays bouddhiste à plus de 90%. Ils ne peuvent pas voyager ni se marier sans autorisation. Ils n'ont pas accès au marché du travail ni aux services publics comme les écoles et des hôpitaux.
Le leader nord-coréen Kim Jong-un est un homme politique rationnel que les États-Unis doivent bien prendre en compte dans leur rapport avec Pyongyang, a déclaré mercredi Yong Suk Lee, sous-directeur adjoint en charge de la Corée du Nord à la CIA. Plusieurs responsables politiques américains ont dépeint Kim Jong-un comme quelqu'un de fou et irrationnel. L'armée russe qui intervient en Syrie en appui des forces gouvernementales a accusé aujourd'hui les États-Unis d'apporter un soutien au groupe djihadiste État islamique en Syrie. L'obstacle principal empêchant d'achever la destruction de l'État islamique en Syrie n'est pas la combativité des terroristes, mais le soutien que leur apportent nos collègues américains, a affirmé le porte-parole du ministère de la Défense, le général Igor Konashenkov, dans un communiqué. Et puis l'Iran et la Turquie ont fait front commun mercredi contre les aspirations indépendantistes du Kurdistan irakien à l'occasion d'une visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Téhéran, concernant le rapprochement entre deux voisins aux relations difficiles. Ankara et Téhéran, qui comptent une forte minorité kurde et craignent une contagion, ont vivement condamné le scrutin organisé par les autorités de cette région autonome. Un tribunal turc a condamné mercredi à la prison à vie 40 personnes reconnues coupables d'avoir tenté d'assassiner le président turc. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibault.
Au Burkina Faso, 23 entreprises ont été exclues temporairement des marchés publics. Selon Taïrou Sanou, le secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics, certaines entreprises falsifient des documents et tentent parfois d'influencer les autorités contractantes par des moyens de la corruption ou de trafic d'influence pour obtenir les marchés. L'Union européenne a annoncé le déblocage de 264 millions de francs CFA pour venir en aide aux victimes des inondations au Niger, notamment pour les populations les plus touchées dans les régions de Dosso, Agadez et Tillabéri. 196 millions de francs CFA vont permettre à l'UNICEF de réhabiliter les points d'eau endommagés pour 35 000 personnes et 67 millions de francs CFA seront consacrés au fonds d'urgence pour les secours. Accord des fromageries belles avec la Banque mondiale pour soutenir son réseau de 6 000 vendeurs de rue en développant ses programmes de santé, d'accès aux services bancaires et de formation professionnelle. Lancé en décembre 2013 au Vietnam, ce programme a depuis été déployé à Kinshasa, Abidjan, Dakar et Antananarivo. D'ici 2025, cette initiative devrait être étendue à 24 nouvelles villes, ce qui concernerait 80 000 vendeurs de rue.
Eh bien, Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On va commencer par le football. Afrique du Sud-Sénégal, reprogrammé au 10 novembre.
Initialement prévu le 8 ou le 9 novembre, la rencontre Afrique du Sud-Sénégal de la deuxième journée des qualifications de la Coupe du Monde se déroulera finalement le 10 novembre à Polo Kwame, en Afrique du Sud. On se souvient que ce match avait été disputé en novembre 2016 et s'était terminé par une victoire 2-1 des Bafana Bafana grâce à un pénalty imaginaire. Depuis, l'arbitre a été suspendu à vie. Et la FIFA a demandé de rejouer ce match. Le Burkina Faso a porté plainte et réclamation devant le tribunal arbitral du sport. Mais pour le moment, ce match doit être rejoué. On rappelle que dans ce groupe D, le Sénégal et le Cap-Vert sont premiers ex aequo avec 6 points. Juste derrière, le Sénégal a 5 points. Et donc évidemment, une victoire sénégalaise relancerait complètement ce groupe.
La cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Zone Afrique ce week-end avec peut-être les premiers qualifiés africains pour le Mondial 2018, Nicolas.
5 places, aucun qualifié pour l'heure. Il y a un match en fin de semaine pour chaque groupe. Dans le groupe de la mort, dans le groupe B, l'Algérie et le Cameroun sont déjà éliminés. Le Nigeria peut se qualifier contre la Zambie, son seul poursuivant pour cette sixième phase d'un mondial de son histoire. Ce serait le second mondial d'affilée. La Tunisie, leader du groupe A, devant la République démocratique du Congo, s'approche également d'une qualification en cas de victoire contre la Guinée. De même pour l'Égypte, dans le groupe E, en ballottage favorable en cas de succès contre le Congo. En revanche, c'est plus serré, notamment dans le groupe C. La Côte d'Ivoire est première devant le Maroc et le Gabon. Tout le monde peut encore y croire.
Et la Syrie qui pourrait aussi se qualifier.
Pour cela, la Syrie devra remporter une double confrontation qui commence dès demain face à l'Australie en barrage. Puis, en cas de succès, il faudrait affronter une nation de la zone CONCACAF.
Merci Nicolas.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde Aujourd'hui présenté par John Linden. Place à présent au dossier du jour. À peine 11 réfugiés rwandais sur les 9200 enregistrés au Congo-Brazzaville se sont manifestés pour retourner au Rwanda. Tous les autres ne veulent pas rentrer. Ils redoutent toujours le pouvoir de Kigali. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Gwelan Gousso.
Vous êtes sans ignorer, vous êtes actuellement en train de célébrer le génocide pour la 23e fois. Et c'est le génocide des Tutsis. À quel moment est-ce qu'on va célébrer le génocide des Hutus? Et donc, les réfugiés ont peur d'aller dans un pays où ils n'ont pas le droit.
Ces propos d'un jeune réfugié rwandais résument l'angoisse et les dépits qu'ils suscitent au niveau des réfugiés rwandais le fait d'entendre qu'ils perdraient, à partir du 31 décembre 2017, leur statut. Le HCR l'a confirmé et y travaille même déjà. Mohamed Nafian est le chef de bureau du HCR à Bétou, au nord du Congo, où on compte quelques 1979 réfugiés rwandais.
Cette année surtout, nous sommes très sûrs qu'il y a une clause de cessation des réfugiés rwandais qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2018. C'est-à-dire d'ici le 31 décembre 2017, les Rwandais n'auront plus le statut de réfugiés, soit le rapatriement, que les HCR pourraient faciliter.
À Brazzaville, les réfugiés vivent cela comme un harcèlement. L'étudiant Patrick Mataboro n'en veut même pas en entendre parler.
Vous voyez que les réfugiés se trouvent dans des situations inconfortables à cause de ce qui se trouvait, de ce que le Rwanda est en train de faire. Donc, qu'ils affichent la paix aux réfugiés rwandais, qu'ils laissent les réfugiés rwandais vivre en beauté, dans leur sécurité. Donc, c'est ça ce qu'on demande.
Marie-Claire Niramaoro revient sur le calvaire vécu pendant la fuite du génocide en 1996.
Nous avons peur de retourner chez nous parce que le pays que nous avons fui n'a toujours pas organisé de dialogue. Pendant notre fuite, nous avons vu dans les forêts de RDC comment les réfugiés rwandais, les Hutus en majorité, ont été pourchassés et massacrés par le FPR. Malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir, ceux-là qui nous ont tués nous demandent aujourd'hui de rentrer au pays.
Luamba Moke, président de la DUC, une ONG locale, appelle le Congo et le Rwanda à abandonner ce projet. Dépassé un mois, dit-il, il saisira la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
À la fin de l'année 2017 et au début de 2018, que ce soit effectivement des personnes qui vont devenir des migrants clandestins et en leur qualité de migrants clandestins, ils vont être expulsés. Voilà, nous craignons cela. Et en ce moment, nous allons saisir la Commission africaine des droits des peuples pour que la Commission puisse prendre autorité sur cette question-là.
Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Mobutu Sese Seko, l'ancien dirigeant de ce qui était à l'époque le Zaïre, est mort il y a 20 ans au Maroc. Aujourd'hui, rien à Kinshasa ne rappelle à première vue l'héritage de celui qui a régné d'une main de fer sur le pays pendant 37 ans. Des Mobutistes réclamant cependant la réhabilitation de son parti. Voici un reportage d'Abdourahmane Dia.
Aucune rue ne porte son nom et il n'y a aucune statue pour l'honorer. Mobutu Sese Seko, mort loin de chez lui, après avoir fui l'arrivée des troupes de Laurent Désiré Kabila, a encore des partisans à Kinshasa. Lando Katambongo est le cousin et ex-secrétaire privé de Mobutu.
Je crois après tout ce que le président a fait dans ce pays, ça mérite quand même une réhabilitation. Les gens, peut-être qu'ils ont l'esprit obtus pour ne pas se souvenir du président Mobutu. Si on ne reconnaît pas ce qu'il avait fait, mais il y a un pan quand même de la société congolaise maintenant, se reconnaître en lui. C'est quand même le fils de ce pays, c'était pas un étranger. Il a lutté pour l'unité de ce pays. On doit quand même le lui reconnaître. L'écriture de l'histoire de ce pays doit rester intacte. Vous voyez à la télé par exemple, quand tu parles de l'histoire de ce pays, on met certaines photos, sauf la photo de Mobutu, comme si lui, ce monsieur-là, ne faisait pas l'histoire de ce pays.
Et parmi ceux qui parlent avec nostalgie de l'époque Mobutu, il y a son fils adoptif, Alain Dilongo Mobutu.
Je ne sais pas si lorsque moi aujourd'hui ou peut-être d'autres se présentent sur la nationalité congolaise, je ne sais pas si ça a la même connotation, si ça a encore la même valeur. Regardez, des pays où nous allions avec fierté aujourd'hui nous rejettent. Des pays que nous contrôlions, dont nous avions une grande ascendance aujourd'hui nous dominent. Je me pose la question.
Et pour lui, réclamer l'héritage de Mobutu passe d'abord par la relance du MPR, l'ancien parti unique.
Nous avons pris nos responsabilités pour réhabiliter ce parti-là et réanimer la flamme du MPR tel que notre papa, tel que le fondateur de ce parti l'avait animé pendant 32 ans.
Et la question du retour au pays de la dépouille de l'ancien chef d'État est aussi dans les esprits. Xavier Lukelo Longo était un de ses plus proches collaborateurs.
Le mort aujourd'hui, même si ton frère a un problème, on nous dit de pardonner. C'est le pardon d'abord. Quand il n'y a pas le pardon, on ne peut pas rien construire. Et les chefs, mon chef, mon papa, il était pour le pardon. Il a beaucoup aimé ce pays et il a fait beaucoup pour ce pays. Et il ne voyait pas mon Congo, mon Luba, mon Gala. D'ailleurs, je vous dis, même nous qui les servaient, il y avait des Katangais, il y avait des Kassaïens. 90% des travailleurs, c'était Bandundu, Bakongo.
Abdourahmane Dia, de retour de Kinshasa pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Les ministres des 14 pays ayant un partage le franc CFA se réunissent aujourd'hui et demain en France autour du ministre français de l'économie dans le cadre de la rencontre annuelle qui précède les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale d'automne. Diminution de la masse monétaire en circulation dans certains États de la CEMAC, baisse de plus de la moitié des réserves en change, hausse de l'endettement et érosion des avoirs extérieurs des pays seront notamment débattus, alors que sur le continent, le débat se poursuit sur le franc CFA. Idriss Fall a recueilli l'avis de l'économiste sénégalais El Hadj Omar Ndao de l'université du Sine Saloum.
Le débat sur le CFA, les profanes, entre guillemets, ils donnent leur position, c'est tout à fait légal. Les politiques donnent leur position, mais je pense qu'il ferait mieux qu'il y ait un débat autour des politiques, des spécialistes, qu'ils puissent s'asseoir et en discuter dans les profondeurs. Le CFA ne nous arrange pas. Pour un pays qui veut émerger, l'arrimage du CFA à l'euro est de 100%. Ça n'existe dans aucune économie au monde. Pour qu'une monnaie soit valable et maniable avec une bonne politique monétaire, il faudra au moins qu'il y ait 50% d'arrimage, 50% de la possibilité de fluctuer. Mais malheureusement pour le CFA, si on veut booster par exemple nos exportations, on n'a pas de possibilité de réduire notre valeur. Donc le CFA suit aveuglément l'euro. C'est pour cela qu'on dit qu'en réalité il n'y a pas de politique monétaire pour la zone CFA, mais on ne peut pas sortir du CFA pour un micro pays comme le Sénégal avec 15 millions d'habitants. On doit sortir du CFA en groupe comme la zone UEMOA, la zone CEDEAO. Pour espérer avoir une économie qui suit la valeur monétaire suivant l'économie, il faut au moins 100 millions d'habitants.
Mais qu'est-ce qu'on va faire du Nigeria et du Ghana qui ont déjà leur propre monnaie?
Mais ces pays qui ont leur propre monnaie. Par exemple, le cas de l'Union européenne. L'Allemagne avait le Deutsche Mark. La France, le franc français. La Suisse, ainsi de suite, et d'autres pays. Mais ils se sont arrangés en créant une monnaie, mais on va prendre une monnaie comme une monnaie internationale, telle que le dollar, l'euro, ou bien une autre monnaie, le dollar canadien, le dollar australien, ainsi de suite, ou bien le yuan chinois. Et dans ce cas, les autres pays comme la Gambie, le Ghana, le Nigeria, on va chercher une monnaie commune avec un taux de change par rapport à une autre monnaie pour échanger la valeur de la monnaie locale par rapport à la nouvelle monnaie créée.
Donc on peut dire pour conclure que ce n'est pas demain la veille qu'on verra une monnaie unique en Afrique de l'Ouest.
En toute sincérité, politiquement, on n'est pas encore prêt. Parce que c'est ce qui portait le débat au sein de l'Union africaine, il y avait Kadhafi, le feu Kadhafi. Mais du point de vue économique, il était le porte-drapeau, en quelque sorte, de l'Union africaine, en voulant accélérer le processus de création d'une monnaie commune. Après lui, on a entendu le cas de Déby en 2015, il en avait parlé, mais depuis lors qu'il n'est plus dans le débat. Mais je sais que quand on doit créer une monnaie, ça doit être au moins une monnaie de l'UEMOA ou bien de la CEDEAO, mais pas une monnaie pour le Sénégal ou bien pour le Mali ou bien pour uniquement le Nigeria.
L'économiste sénégalais El Hadj Omar Ndao.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Madrid et Barcelone continuent à durcir le ton depuis le référendum d'autodétermination de la Catalogne, interdit dimanche dernier. Le président de la communauté autonome de Catalogne, Charles Puigdemont, veut déclarer l'indépendance à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Pour analyse, Eric Manerakiza, adjoint à Paris, Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS sur l'Espagne et l'Amérique latine.
Non, c'est un bras de fer perdu d'avance. Donc effectivement, le tribunal constitutionnel espagnol a considéré que l'organisation d'un référendum sur une partie du territoire espagnol sans l'accord des autorités nationales espagnoles était inconstitutionnelle et illégale. Mais la logique qui est suivie par les autorités locales, donc du gouvernement catalan, est celle d'aller jusqu'au bout de la dynamique vers l'indépendance qu'ils ont engagée.
Le roi Felipe VI s'est exprimé avec une grande fermeté. Apparemment, il n'a pas été entendu. Est-ce que le roi a un pouvoir réel en Espagne?
Non, il a les mêmes pouvoirs que le roi de Hollande, de Suède ou la reine d'Angleterre. Il est le symbole de l'unité nationale et il exprime le point de vue du gouvernement du moment. En Espagne, il y a eu une exception le 23 février 1981 quand des militaires ont pris en otage les députés et le gouvernement. Le roi, qui était le père du roi actuel, donc Juan Carlos, s'était trouvé en situation d'avoir un rôle effectivement politique important. Alors, c'est peut-être en souvenir de cette image positive vis-à-vis de la démocratie qu'a gagné le roi Juan Carlos à ce moment-là que le gouvernement espagnol a souhaité que son fils, Felipe VI, s'exprime de façon solennelle à la télévision pour solenniser la prise de position qui est confirmée dans la ligne politique qui est celle du gouvernement de Madrid, qui est de considérer qu'il est prioritaire de faire respecter la loi, de faire respecter la Constitution, s'impose à tous, y compris aux autorités élues de Catalogne.
La justice espagnole a lancé des poursuites contre le chef de la police catalane et des responsables indépendantistes. Est-ce que c'est une action qui peut régler ce contentieux ou ça risque d'empirer la situation?
En règle générale, il faut passer par la case dialogue. La particularité de cette crise catalane est qu'elle s'éternise depuis 2010, ce qui est une date butoir, une date symbolique forte du début de cette crise. C'est la date à laquelle le Parti populaire, ayant saisi le tribunal constitutionnel, a fait abolir l'essentiel d'un statut d'autonomie qui donnait satisfaction à la majorité des Catalans. Donc à partir de ce moment-là, le gouvernement populaire arrivé au pouvoir à Madrid avait l'obligation de faire une proposition alternative, il ne l'a jamais faite. Et donc le dossier a dérivé, a pourri, et la société catalane comme la société espagnole se sont polarisées.
Jean-Jacques Kourlianski, chercheur sur les questions ibériques à l'IRIS.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace à peace.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Mise en onde par Sims Lumami, Alfredo Santos était à la console. Présentation, John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.